en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour, cet habit vert est consacré à Antoine Poncé, sculpteur, membre de l'Académie des Beaux-Arts, qui nous reçoit dans son atelier à Paris. Entre création et présidence de l'Académie des Beaux-Arts, le sculpteur reste plus que jamais actif. Il se dévoile et nous raconte sa vie. Portrait d'un homme de joie et de rêve qui fut le familier de Brancusi, Maillol, Giacometti et bien d'autres. Antoine Poncé, bonjour.
C'est venu d'une chance magnifique que j'ai eue d'un collectionneur américain qui s'est attaché à moi. Et j'étais, quand je l'ai connu à Paris, à l'atelier de mon grand-père à Saint-Germain-en-Laye, de Maurice Denis. Et c'est un autre collectionneur américain qui m'avait envoyé celui-ci, qui s'appelait Nathan Cummings, en me disant, je vous préviens, il peut être très important pour vous, mais c'est monsieur 50%. Et il est en effet arrivé un jour en m'appelant depuis son hôtel de Paris pour me voir. Et devant la porte, le portail de cette maison qui est maintenant le prieuré, le musée Maurice Denis, quand j'ai été ouvrir le portail, j'ai vu un monsieur sur une voiture de louage énorme, debout dessus, en train d'arracher le lierre sur le numéro de la rue. Et me criant dans un très mauvais français, « Comment voulez-vous arriver dans la ville si vous laissez votre numéro de maison caché par le lierre ?» Alors ça a été le début d'une grande amitié. Il est venu dans l'atelier, il a dit « Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Et quel prix, voilà. Et alors, comme j'étais prévenu, je me suis dit « Il faut quand même que je fasse attention. » Et j'ai doublé le prix de quelques sculptures que j'avais vendues avant. Et j'ai dit « Ben voilà, c'est temps. » Et alors il m'a dit, écoutez, je vais réfléchir, je vais aller parler avec ma femme. Il s'est retiré dans le coin de l'atelier. Il est revenu en me disant, bah, écoutez, je vous offre ça. Et c'était la moitié. Et j'ai dit oui. Et voilà. Et c'est de là qu'on est venus très amis parce que 20 ans après, on s'est raconté l'histoire et on a beaucoup ri. Mais enfin, pour finir l'histoire de Cummings et le lien avec les musées où j'ai des œuvres aux États-Unis, quand j'ai été invité pour faire mon premier grand marbre en Italie, par l'intermédiaire d'un critique d'art italien qui était très important, qui s'est beaucoup occupé de la Biennale de Venise, qui s'appelait Giuseppe Marchiori, et qui m'avait fait inviter par une grande entreprise de marbre près de Carrare. Quand j'étais là, à la fin de l'été, nous étions avec ma femme, je lui ai dit, il faudrait vraiment que je puisse faire une vingtaine de grands marbres, mais comment est-ce que je pourrais faire pour pouvoir les financer, parce que je n'avais pas du tout de moyens financiers particuliers, hein. J'ai toujours vécu dans le fond de ma sculpture, un peu de temps en temps, de quelques tableaux de mon grand-père, dont j'ai hérité de ma mère, mais enfin bon, ça a été plutôt pour mes enfants, ça. Et alors j'ai dit à Florence, ma femme, qu'est-ce que je vais faire ? Elle m'a dit, mais tu n'y arriveras jamais. Et je lui ai dit, mais je vais écrire à Cummings. Elle m'a dit, mais tu es complètement folle, il ne va pas se lancer dans le financement de 20 grandes sculptures. Et je lui ai écrit un mot en lui disant, j'ai besoin de pouvoir faire 20 sculptures en marbre, mais je ne peux pas financer. Et j'ai reçu un télégramme 3 ou 4 jours après avec yes. Je finance. Vous vous rendez compte, si c'était...
Votre vie s'apparente à un roman. Comment est-ce qu'il démarre, ce roman ?
Ah, écoutez, il a dû démarrer déjà au début parce que j'ai eu la chance de naître dans une famille d'artistes que mon père, qui avait rencontré à l'occasion de vitraux de Maurice Denis à Genève. Et mon père vivait à Genève et faisait les vitraux. De Maurice Denis avait besoin d'un jeune artiste qui pourrait l'aider pour ses vitraux de Genève. Et mon père est venu à Saint-Germain-en-Laye et il est entré dans la famille de Maurice Denis, qui avait beaucoup d'enfants, beaucoup de filles aussi. Et ma mère est tombée amoureuse de lui et lui d'elle. Et donc là, les choses étaient très simples. Je suis issu de cette histoire-là. Et il est certain que mon père, qui était un homme complètement différent de Maurice Denis, qui peignait dans un autre sens, c'était plutôt Montparnasse, 1930, si vous voulez, mon père, alors que Maurice Denis, c'était les nabis avant le début du siècle précédent. Et donc, si vous voulez, ce concours de circonstances a fait aussi que je suis arrivé chez Bourdel, et que là, il y a eu un peu... d'une manière très lointaine, puisque je suis arrivé chez Bourdelais avant ma naissance, si je peux dire, puisque mon père ayant exposé aux Tuileries à l'époque, sans succès, dans un coin un peu perdu du salon, a été appelé tout à coup. On lui a dit, Bourdel est devant votre toile et il est en train de faire beaucoup de tapage en disant, voilà, j'ai trouvé un génie. Vous savez, Bourdel était un méridional, donc il avait beaucoup de... comme ça, d'exubérance dans sa façon de parler des choses. Et naturellement que ça a créé tout un mouvement autour de la toile de mon père. Et Bourdel a fait venir mon père chez lui et ils sont devenus de très grands amis. D'ailleurs, en ce moment, j'ai une jeune femme qui travaille avec moi, dont l'ami travaille au musée Bourdel. Et il a retrouvé dans un fond d'armoire un dossier assez fantastique avec un très beau dessin de Bourdel dessus, et dedans c'était toutes les lettres que mon père avait écrites à Bourdel, qui n'étaient pas du tout reconnues depuis longtemps, parce que je pense que depuis longtemps peut-être mon père, aux yeux des conservateurs ou autres du musée Bourdel, ne leur apparaissait pas comme un nom particulièrement connu. Et alors là, j'ai été très heureux parce que je sais que j'avais chez mon frère en Suisse les lettres de Bourdel, donc je vais pouvoir reconstituer cette amitié d'avant 29. Et alors voilà, ça je parle, mais je parle beaucoup.
Vous êtes issu d'une famille d'artistes. Est-ce que c'est cette filiation qui vous a donné envie de faire de l'art et de devenir vous-même artiste ?
C'est-à-dire que c'est venu au travers du travail matériel que j'ai réalisé dès mon enfance avec mon père et même mon grand-père. Maurice Denis disait toujours que j'étais son aide parce que je venais nettoyer les pinceaux, laver les pinceaux dans son atelier à Saint-Germain. Il disait que je n'avais pas beaucoup de raisons de devenir un intellectuel. Il pensait que je devrais devenir jardinier. Il l'a écrit d'ailleurs dans son journal. Et c'est presque la seule remarque qu'il a fait sur moi. Et puis, quand je suis retourné, mon père était à moitié suisse et français. Quand je suis retourné en Suisse avec lui au moment de la guerre, j'ai énormément aidé mon père dans ses vitraux, dans sa mosaïque, et même déjà avant 1939. C'est-à-dire que je montais les vitraux, je coulais le plomb, j'adorais faire par exemple les fours de vitraux où il faut retirer le feu à un certain moment dans la nuit parce qu'il faut que le verre ne brûle pas. Enfin ça, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Et en plus de ça, j'ai commencé à essayer de faire des études chez au collège de Saint-Maurice, à l'abbaye de Saint-Maurice, où il y a un collège qui est très très bien. Et je vous raconte beaucoup de choses, mais j'habitais chez mon oncle, qui était curé de cette ville de Saint-Maurice, dans le Valais suisse, qui abritait naturellement ma grand-mère. Et j'ai été très peu de temps dans ces études parce que ma grand-mère n'aimait pas que je pique au mur les photos des vedettes de cinéma américaines que je trouvais dans des revues de cinéma. Et alors j'étais un peu insatisfait de ça. Et en plus, quand je suis arrivé un samedi chez mon père, qui était entre Lausanne et Genève, dans un petit village, où des militaires construisaient une ligne fortifiée pour protéger la Suisse de l'avancée éventuelle des Allemands, un filon de terre glaise a été trouvé et les militaires se sont dit il faudrait peut-être le donner à l'artiste. Donc ils sont arrivés avec un camion de terre glaise dans la cour de mon père Et quand je suis arrivé de ce jour où je venais chez mes parents pour me reposer de, d'études que je faisais très mal, mon père m'a dit, mais puisque tu es là, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une sculpture avec cette glaise? Et j'ai passé 2 jours de plaisir et de bonheur de manipuler la matière dans l'espace. C'était tout à fait autre chose que je faisais avec mon père. Et le dimanche soir, mon père m'a dit, ben, écoute, tu ne retournes pas chez mon frère le curé, et je t'envoie chez Germaine Richier. Parce que Germaine Richier, la grande sculpteur française, était l'épouse d'un sculpteur suisse rencontré chez Bourdel, qui s'appelait Benninger. Et elle avait un atelier où quelques élèves lui permettaient de vivre financièrement pendant la guerre en Suisse. Donc je suis arrivé là-bas à Zurich, où je ne me suis pas du tout entendu très bien avec Richier, dont je suis resté très ami, mais avec la nourriture suisse-allemande, on mange des pruneaux dans les pâtes ou des choses insensées. Donc au bout de quelques temps, j'ai eu envie de rentrer chez mon père, et j'ai abandonné Richier, où j'avais appris à faire de la sculpture avec un modèle nu, ce qui était une chose assez nouvelle, bien que mon père avait aussi des modèles chez lui. Mais un modèle nu au milieu de l'atelier de Richier, devant un petit poêle à charbon. Ce modèle couvert de petits points faits avec des points de bique, vous savez, si on peut, des petits crayons sur le corps, qui correspondaient à des allumettes plantées dans les travaux en terre de ses élèves. Et c'était des repères pour placer la forme dans l'espace avec des compas. Vous voyez, donc on mesurait entre 2 points sur le corps du modèle et il fallait reporter ou diminuer de 50% dans le modèle en terre ces cotes-là pour arriver à trouver la forme dans la sculpture en terre.
Est-ce que votre père vivait de sa peinture ?
Oui, mon père vivait de sa peinture.
Est-ce qu'aujourd'hui vous aimeriez le remercier de vous avoir laissé jouer à la glaise cette fameuse journée ?
Ah, absolument. J'avais avec mon père pas toujours une facilité d'entente. D'ailleurs, à la fin de la guerre, je suis très vite revenu dans un des premiers trains qui retournait de Suisse en France pour retrouver le côté de la famille de ma mère qui était tout à fait français. Et mon père était très violent, était très tout à fait à l'opposé de Maurice Denis. Et je supportais assez mal cette manière qu'il avait d'être, qui quelquefois allait très loin, puisqu'il avait des périodes d'excitation et des périodes, au contraire, de dépression. Donc je suis revenu à Paris et j'ai été chez les Bourdel. Et Cléopâtre Bourdel, la mère de Rodia Dufay-Bourdel, qui ont donné le musée Bourdel à la ville de Paris. Cléopâtre, qui avait été la seconde femme de Bourdel, arrivant de Grèce, entrant dans l'atelier de Bourdel, qui avait des échafaudages pour ses grands monuments, a ouvert la porte et a dit « Je suis Cléopâtre ». Et Bourdel a dit « Je suis Antoine » et son mari.
Est-ce que ce jour où vous avez utilisé la glaise, tout jeune, lorsque vous avez commencé à sculpter, la toute première fois où vous avez glissé vos mains dans la glaise, vous vous êtes dit, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie?
Absolument. C'était pour moi, si vous voulez, la possibilité de rester dans cette atmosphère de ce milieu de peintres et d'artistes, où j'avais déjà eu matériellement le contact avec, manuellement le contact avec les matières, et puis surtout d'être dans l'espace, ce qui était une chose complètement nouvelle par rapport aux peintres qui travaillent toujours sur une surface plane. Et le plaisir de sentir la forme, enfin de prendre en main, si vous voulez, c'est un plaisir sensuel aussi, et un plaisir de créer une forme dans l'espace et de la laisser là, tout à coup, qui existe. C'est pour ça que j'aime beaucoup la glaise en général, qui pour moi est comme le carnet de croquis du sculpteur. C'est-à-dire qu'on a très rapidement, sans le temps long que représente le travail du marbre ou le travail d'autres matières, on a tout de suite quelque chose qui est dans l'espace, tenu, un volume qui vit dans l'espace. Et c'est ça qui fait que je continue toujours à travailler la glaise.
Revenons à votre parcours, votre adolescence. Comment est-ce qu'elle se passe? Est-ce que vous vous battez beaucoup pour l'art et pour devenir artiste?
Mais vous savez, justement, c'est un truc assez bizarre parce que du fait de... D'abord, je suis, paraît-il, un peu un autiste dans ma jeunesse. Je le suis peut-être encore un peu maintenant. Mais je ne pense pas tellement à ce qui va se passer le lendemain. C'est beaucoup le présent, ce que je fais sur le moment même qui m'intéresse, avec l'œil frisant vers la gauche pour l'avenir. Naturellement, j'ai comme un chemin que je suis et que j'ai découvert le jour où j'ai découvert la Terre. Et si vous voulez, j'ai l'impression que j'ai trouvé une espèce de filon, on pourrait dire assez ça pour la Terre, que je creuse depuis déjà des années et des années, et que dans ce filon où j'ai trouvé certaines formes qui me répondaient, qui vivaient en face de moi, donc qui pouvaient devenir seules sans moi, ce filon était encore plein de possibilités de découverte. Et c'est pour ça que maintenant, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir une fin de carrière et de vie. Souvent, ma femme me dit, mais tu en as déjà assez fait, arrête-toi. Et je dis non, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire le lendemain. C'est le lendemain qui va être le présent.
Oui, mais vous êtes très actif, et effectivement, aujourd'hui, plus que jamais, puisque vous êtes président de l'Académie des Beaux-Arts, vous continuez à sculpter, comment vous conciliez toutes ces activités et comment vous la voyez pour l'avenir?
C'est-à-dire que déjà, la présidence de l'Académie, c'est heureusement, si j'ose dire, parce que c'est très intéressant d'avoir ce contact avec tous les membres de l'Académie des Beaux-Arts, tous les académiciens confrères. D'abord parce que chaque section, puisqu'il y a 8 sections, représente une partie de la création. Donc c'est très intéressant à un certain âge de pouvoir lier ces 8 différentes sections qui vont du cinéma à la peinture, naturellement. Et puis aussi, ce qu'il y a de génial et de formidable, c'est ce qu'on peut faire financièrement pour beaucoup de jeunes, puisque il ne faut pas croire que l'Académie, c'est un endroit de garage, un parking où on s'arrête. Et pour moi, l'Académie, c'est un lieu où on peut aider et soutenir en donnant des prix. Et nous avons heureusement des donateurs fantastiques à l'Académie des Beaux-Arts. Je pense à Mme Del Luca, qui n'est plus là malheureusement, à Cardin, qui heureusement est là, à l'arrivée aussi de nouveaux membres associés étrangers, comme Lagacan, qui est un personnage remarquable et qui fait tellement de choses... Et en plus, que je trouve énormément sympathique. Puis aussi, en juin, nous allons avoir la Tcheka du Qatar, vous savez, qui a beaucoup soutenu pour le Louvre et qui est pleine d'ouvertures sur le plan artistique. Et donc, toutes ces personnalités-là et tous les prix qui existent depuis toujours font qu'on peut vraiment donner des prix à la musique, des prix à la peinture, des prix aux jeunes, des prix de confirmation ou de fin de carrière, si on peut dire, comme les prix d'El Duca, qui sont plutôt donnés à des personnes déjà reconnue, tout à fait reconnue. C'était ce qu'elle aimait, Madame Del Luca. Donc, on continue dans ce sens-là. Mais tous les autres prix, c'est beaucoup de l'encouragement et de l'aide à des jeunes et aussi parfois à des personnes très âgées, puisque nous aidons énormément, par exemple, les veuves, puisque ça existe, ou les veufs, puisque maintenant, nous avons heureusement beaucoup de femmes, dont vous, qui n'êtes pas loin de nous, en étant au 4e étage de l'Académie. Mais c'est vrai, ces femmes sont parfois veuves et dans la difficulté. Parce qu'il faut bien se rendre compte, c'est une chose que personne n'imagine à l'extérieur, c'est que c'est un bénévolat total. Nous avons quelques petits jetons de présence, mais qui représentent presque rien. Nous avons naturellement, et moi je l'ai regretté quand j'ai été à Madrid l'autre jour, des billets d'avion qui sont payés, mais on nous donne des billets de première classe business, ce que je trouve ridicule, parce qu'on pourrait faire 3 fois le voyage avec un billet ordinaire.
Et inviter plus d'académiciens.
Plus d'académiciens et aider plus d'autres jeunes, puisque c'est le but bénévole que... Enfin, personnellement, j'ai accepté de faire en entrant à l'Académie. Parce qu'on pense que ce sont des honneurs ou des honneurs. Oui, il y a des petites décorations que des gens vous forcent à apprendre, même presque sans qu'on s'en rende compte. Mais ce n'est pas ça qui est très important. Enfin, il paraît que c'est quand même important aux yeux de l'institution.
Antoine Poncet, où avez-vous passé la majeure partie de votre adolescence et qu'est-ce qui vous a fait vraiment grandir dans le monde de l'art ?
Alors écoutez, après ce qu'on vient de dire maintenant, je crois que c'est le soutien de personnes qui se sont trouvées attirées par mon œuvre, enfin mon œuvre, mon travail. Il faut arrêter de trop faire se monter le bourrichon sur ce qu'on fait. On fait un métier normal, naturel. C'est notre métier, c'est tout. Eh bien, ce sont ces gens-là qui m'ont permis de continuer. Je vous parlais de Nathan Cummings tout à l'heure, je crois. Et je peux vous dire un exemple actuel que j'ai. Je fais une grande sculpture pour une grande propriété près de Namur, un château important. Je ne peux pas vous donner le nom de la personne qui m'a commandé cette sculpture, mais qui est une personne qui a eu des activités importantes en Belgique. Et cette personne avait vu une de mes sculptures au travers de la galerie d'Anne-Isabelle Berès, à Maastricht, vous savez. Cette personne avait vu avec son mari dans la foire de Maastricht une sculpture, et en sortant de la foire, elle avait dit à son mari, eh ben, j'aimerais beaucoup qu'on réalise une grande sculpture dans le parc de notre château. C'est vraiment un château très beau avec un parc splendide. Puisque maintenant, malheureusement, c'était il y a 20 ans, son mari est décédé 2-3 ans après, et se retrouvant seule, elle a dit « Je ne vais pas réaliser les choses que nous voulions faire avec mon mari. » Et maintenant, tout à coup, à 87 ans, j'ai un téléphone de cette dame qui me dit « Je viens vous voir parce que je veux réaliser ce que nous voulions faire avec mon mari. » Alors voilà, c'est le genre de choses, si vous voulez, qui est la merveille. Et ça m'est arrivé, heureusement, souvent dans la vie.
Canal Academy est une radio, donc malheureusement on ne peut pas voir vos œuvres. Bien sûr, on les découvre au travers de l'article qui est écrit en parallèle de cette version audio, donc nous aurons des photos. Mais est-ce que vous accepteriez, Monsieur Poncet, de nous amener, puisque nous sommes dans votre atelier, de nous faire découvrir quelques-unes de vos œuvres et de nous les décrire, de nous donner un petit aperçu? Qu'est-ce qui vous inspire?
Ce n'est pas très difficile dans le sens que, si vous voulez, pour moi, il y a d'abord une chose absolument essentielle dans une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, c'est que dans la forme existante que l'on tient ou que l'on voit avec ses yeux ou que l'on tient par son regard, il faut qu'on ait le sentiment que, si vous voulez, le sang circule, ou si vous voulez, que c'est une pile et que dans cette pile, il y a du courant qui se trouve à l'intérieur. Ça, c'est l'idée simple pour comprendre ce qu'il faut trouver, à mon avis, dans une forme. Donc, moi, je vois ça absolument nécessaire jusqu'à l'extrémité la plus fine de la forme ou d'une arête. Si au fond d'une arête, il y a un sentiment de mort, l'œuvre en elle-même, elle est déjà perdue. Et souvent, quand on travaille, on a l'impression que l'œuvre a une arthrose, vous savez, une arthrose qu'elle vieillit mal. Et si elle doit vieillir mal, parce qu'on ressent qu'elle a ça qui est perceptible, d'une manière pas du tout logique, mais d'une manière sensuelle, si vous voulez, à ce moment-là, il vaut mieux se dire je ne m'intéresse pas. On pourrait presque dire que c'est une relation amoureuse, vous savez, c'est une relation amoureuse avec les formes que l'on fait. Alors actuellement, j'ai, si vous voulez, une inspiration qui me pousse un peu depuis assez longtemps, c'est que je ne veux pas que dans ma sculpture, il y ait l'expression de la douleur, de la difficulté des choses, de la vie. Vous voyez, on est dans une crise actuellement dans laquelle tout le monde se sent malheureux, parce que tout le monde est malheureux, et c'est vrai, ça, je ne l'écarte pas. Je souffre à l'idée de tous les gens qui sont licenciés, de tout le chômage qu'il y a, de toutes les difficultés financières que les gens vont avoir. Mais je crois que dans ce climat-là, encore plus, même dans un climat de, je dirais, de guerre, je pense à la guerre de 45, 39-45, la seule chose que l'art peut vraiment apporter aux êtres qui sont dans la tourmente, ou dans la panique, ou dans la difficulté, c'est de leur apporter de l'optimisme et de la joie. Comme ils en ont d'ailleurs en écoutant de la musique, comme ils en ont quand ils savent s'approcher d'un poème, mais c'est quelquefois assez difficile, ou bien quand ils sont dans la nature, tout simplement, quelque chose qui leur donne un sentiment que la vie est là, et qu'il faut encore croire, même malgré les difficultés aux choses. Donc, si vous voulez, moi, à la différence de Jean Harp, que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il m'a permis de découvrir la forme simple, où on enlève tout ce qui est inutile, et qui est la plus difficile, celle où il n'y a pas d'accroche-œil, si vous voulez, qui sont par des matières irrégulières, frotter la forme poussée à sa pureté la plus grande. Et je veux qu'elle soit plutôt quelque chose qui s'envole. Harpe était un bourgeon, si vous voulez, à mon avis, plein de talent et de poésie. Un bourgeon qui sortait comme on voit sortir un champignon qui commence à sortir le premier jour. Et moi, j'aimerais vraiment qu'à un moment donné, ça s'envole et que ça parte plutôt vers le ciel. C'est pour ça que j'aime bien, quand je donne des titres très inventés comme ça, et, sentir le sentiment d'aile, si vous voulez. Des ailes, de quelque chose qui s'envole. Alors, ce n'est pas les ailes uniquement, mais c'est tout ce qui s'envole. On pourrait dire que si j'ai appelé une sculpture, je ne me rappelle même plus exactement, fusée, fusante, enfin, vous voyez, quelque chose qui part vers le ciel. C'est pour ça qu'il y a aussi un peu une relation très large, parce que je sors d'une famille assez catholique, très catholique. Ma femme est protestante, donc je suis déjà œcuménique par ce contact-là. Mais les religions, pour moi, elles sont toutes au même niveau, si elles donnent le sentiment à ceux qui les pratiquent, dans leurs formes différentes, d'avoir un espoir plus grand vers quelque chose qui dépasse la vie, d'ailleurs. Mais ce n'est pas dans le fait de la religion, du Vatican, ça ne m'intéresse pas, hein. Pas beaucoup, c'est du spectacle, c'est du folklore. Et si seulement toutes ces formes de croyances en la vie, en l'avenir, en la mort aussi, pouvaient se réunir sans ces différences qui les abîment.
Donc c'est toutes ces croyances qui vous font créer ?
Je pense que ça sert beaucoup, oui. C'est la beauté aussi. Quand je suis en face de vous, j'ai l'impression que je pourrais créer quelque chose de plus et de nouveau. Mais c'est vrai, parce que la beauté de la vie dans un être humain, dans un vieillard bien ridé, ou dans une jeune femme comme vous, pleine de fraîcheur, ce sont des sources d'œuvres éventuelles, pas d'œuvres, parce que je ne fais pas des choses figuratives, mais disons d'inspiration de la vie.
Lorsqu'on regarde vos œuvres, aussi monumentales soient-elles, elles sont légères, comme vous dites. On a ce sentiment de plénitude, de légèreté. Est-ce que chacune d'entre elles a une histoire ?
Écoutez, alors là, je vais vous dire que c'est assez... Il y a des histoires que je pourrais trouver, mais dans celles qui sont ici, pas tellement. Elles ont des histoires après plutôt qu'avant. Oui, il y a des histoires, comme vous dites, parce que c'est plutôt après qu'avant qu'il y a une histoire. Mais pour moi, elles ont des histoires avant aussi, parce que quand je les pense, quand je les réfléchis, quand elles se créent, c'est à ce moment-là que je sens cette chose que je veux trouver dans une sculpture, et c'est le moment le plus important. Je les oublie assez vite. C'est-à-dire que dans un certain sens, je trouve qu'elles peuvent vivre par elles-mêmes. Elles peuvent être détestées, ou elles peuvent être aimées aussi parfois. Et tant mieux pour elle, hein, parce que c'est plus. Je crois qu'il faut dépersonnaliser ce qu'on fait quand on fait des, quand on se lance dans cette partie un peu folle des êtres humains, qui est de créer des œuvres. C'est déjà une prétention terrible en soi. C'est comme si on voulait donner une vie avec un niveau supérieur à d'autres, ce qui est pas vrai. On y prend du plaisir. Je sais pas comment dire ça. Je crois que l'écrivain ou le musicien, c'est la même chose. Et il en faut. Et ça, on sait qu'il en faut. Il en faut pour moi, par exemple. Je crois que la musique, par exemple, ça vous élève. Enfin, voilà. Souvent, ça vous élève. Parfois, ça peut être dramatique aussi, mais ça vous élève quand même. Et on en a besoin.
Est-ce que vous pourriez nous commenter cette œuvre qui se situe sur votre bureau, dans votre atelier, et qui est de taille moyenne, hein, qui n'est pas très grande ni trop petite, qui est blanche. Alors, dans quelle matière est-elle faite ? Est-ce qu'elle a un nom ? Est-ce qu'elle a une histoire ?
Alors, je peux vous raconter celle-ci, mais en parlant d'une qui la précède, que vous avez d'ailleurs sur la première couverture de mon livre, que j'ai appelé héliotrope, mais parce que justement j'aime bien faire des associations qui ne sont pas à trouver dans un dictionnaire pour éveiller l'imagination de ceux qui lisent le texte en regardant le titre plutôt que le texte, le titre en regardant une sculpture. Alors si vous voulez, héliotrope, ça m'avait fait penser à une fleur d'abord, pourquoi pas. Il y aurait une fleur qui s'appellerait héliotrope, comme il y a des fleurs qui s'appellent hélice J'ai une autre sculpture que j'avais appelée Hélice des mers. Et je n'avais pas écrit parce que c'était dans une société qui s'occupe de navigation. Je n'avais pas écrit Hélice comme une hélice de bateau. J'avais écrit Hélice et Lys, un lys comme la fleur, si vous voulez. Et je l'avais appelée Hélice des mers parce que c'était dans une société de navigation. Alors ça permettait d'imaginer des choses. Et celle-ci, je l'ai appelée Héliotrope, celle qui a précédé. Et ce que j'avais aimé dans Héliotrope, que je continue à aimer et qui me semble encore une source de recherche, que j'essaye de poursuivre dans celle-ci, dont je ne suis pas entièrement content, voyez-vous, elle aurait peut-être un petit peu de rhumatisme sur le côté gauche. Mais enfin, bon, eh bien, c'était ce développement vers le haut. C'est-à-dire, je pensais naturellement à la fleur le bouton de fleur qui s'épanouit. C'est tout, n'est-ce pas? Quand on pense à ça, et on le voit merveilleusement dans des images qui sont rapides, vous savez, où on voit s'ouvrir un bouton de fleur, ce qui est une chose magnifique, je trouve. Il y a un instant où ça s'arrête et où ça devrait être parfait. Alors, naturellement, on ne peut pas avoir la perfection. Donc, on sait chaque fois qu'à un moment donné, on oublie, parce que c'est quand même pas mal. On se dit c'est une étape, voilà. Et ça, c'est une étape. C'est pour ça que je l'ai mise ici, devant, où je suis assez souvent, que je la regarde de temps en temps, que je la tourne, parce que j'aime beaucoup que les sculptures puissent tourner. Parce que pour moi, c'est pas dans un seul sens. C'est pas comme un portrait. Enfin, un portrait, il faut aussi aller voir le profil. C'est exactement alors comme un portrait, je dirais. Il faut pouvoir passer de devant au côté, à la face et à l'arrière. Et certains portraits, quand je pense de Bourdelle ou de Rodin, et d'autres, de Gimond ou de beaucoup d'autres dont j'oublie tout à coup, parce que les artistes disparaissent aussi. Et quand on regarde la nuque, simplement, de certains des bustes, on imagine ce qui va se passer devant, mais on est surpris quand on arrive devant. C'est quelquefois une autre expression qui apparaît. Donc les sculptures, si vous voulez, c'est pour ça que j'aime qu'elles tournent, il faut qu'elles puissent vivre dans tous les points de vue. Donc, vous voyez, dans celle que vous regardez maintenant, il y a un coup de lumière qui éclaire le côté gauche. Et j'ai l'impression que, si vous voulez, c'est comme l'équilibre est nécessaire comme une balance. C'est-à-dire qu'il faut que le poids de la matière, par exemple, il faut pas qu'il y ait un endroit où ça tire la forme par terre, si vous voulez. Il faut que ça la maintienne, justement, aérienne, si vous voulez. Et le centre de gravité aussi. Il ne faut pas qu'une sculpture donne l'impression qu'elle pourrait partir, qu'elle a des
De boiter.
problèmes de boiter. Voilà. Et elle doit être, si possible, mais on y arrive difficilement et rarement, quand elle est cristallisée définitivement dans son état définitif, elle doit porter ça toute sa vie, hein, si on peut dire, avec elle. Parce que c'est quand même presque des. Ce n'est pas du tout des êtres vivants, loin de là, hein, parce qu'elles ne vieillissent pas. Elles ont la chance d'être. C'est un privilège énorme.
Éternel, comme à l'académie. Est-ce que vous avez un grand maître ou plusieurs grands maîtres, Antoine Poncet?
C'est difficile de dire ça. Moi, j'essaye d'observer les jeunes artistes qui sont devant moi en espérant trouver en eux quelque chose qui va peut-être leur permettre de vraiment arriver à dominer le problème. Et c'est plus important pour moi, dans le fond, que les choses du passé. C'est pour ça que je me pose des questions souvent de ce qui va se passer pour la jeune génération qui arrive. Et souvent, j'ai l'impression qu'elle est un peu perdue parce qu'on a compliqué le problème. Et on renonce aussi à certaines racines qui, à mon avis, existent depuis l'origine de la peinture ou de la sculpture, en tout cas de la sculpture. Je vous parlais du centre de gravité, de l'équilibre. Tout ça a l'air d'être inutile maintenant. Depuis Duchamp, pourtant que j'ai énormément aimé les dadaïstes, j'ai été chez Art par intérêt pour ça. Et je sais tout ce qu'ils ont apporté de renouveau. On a un petit peu éloigné ces choses que je trouve quand même toujours très importantes, même avec une pensée d'art contemporain intelligente. Il est certain qu'actuellement, on peut avoir le sentiment, si on a une explication, de ce qu'on est en train de faire dans une installation, par exemple. Il suffit de suspendre au bout d'un filtre invisible une boîte de Coca-Cola et on dit que c'est une sculpture, vous comprenez, qui est aérienne. On peut encore ajouter d'autres choses qui expriment l'époque, qui répond à un besoin de la civilisation contemporaine. On peut trouver beaucoup de blabla. Et c'est du blabla si la chose en elle-même n'est pas parfaite. Si elle n'a pas ce sentiment de respecter ces lois qui ont été dans les œuvres d'art depuis leurs origines, depuis les arts premiers. Quand c'est l'instinct qui conduit les gens, comme dans l'art africain, et bien d'autres, quand on pense aux périodes grecques, et il y a tant de choses magnifiques dans toute l'histoire de la sculpture. Enfin, quand elles sont vraiment belles, quand elles ne sont pas artificielles et fabriquées, on sent dedans ce qui est dedans. Et dans des choses contemporaines aussi, on peut sentir. Et on peut se retrouver, être satisfait de retrouver ces choses-là. Mais je crois que bien souvent, la notion de connaître ses racines en ayant, disons, pénétré un peu tout ce qui s'est fait avant, pénétrer peut-être vite, hein, un clin d'œil, ça suffit quelquefois. Mais quelquefois, il y a une espèce de, je crois, d'oubli de tout ça pour vouloir vraiment faire une chose qui soit nouvelle. Et la nouveauté n'est pas tellement intéressante. La nouveauté est formidable si elle s'accroche sur des racines solides du passé, on peut le dire. Et je pense qu'on doit arriver à le faire comprendre. Et je crois qu'actuellement, dans une crise comme celle qui se vit maintenant sur le plan financier, mais sur tout le reste, hein, il y a une vraie crise. Je crois que pour la jeunesse, il y a une vraie crise. Il y a l'angoisse qui est quelquefois un peu réduite par des choses artificielles, par la drogue. Toutes ces familles reconstituées, c'est aussi quelque chose, je trouve, de dramatique pour la jeunesse. Il faut qu'à un moment donné, on prenne en considération ces choses-là, on fasse attention un petit peu à ce qu'on fait. Il y a des valeurs qu'il ne faut pas. Moi, je n'aime pas le mot de valeur parce qu'on pense tout de suite à Le Pen, que je ne supporte pas. Mais il y a des valeurs qui sont autre chose que les valeurs de Le Pen, qui sont essentielles dans la vie.
Vous parliez des jeunes. Qu'est-ce qu'on vous conseilleriez à un jeune aujourd'hui qui démarre, qui veut être artiste, qui n'est pas issu d'une famille d'artistes, qui ne vit pas forcément à Paris?
Ben écoutez, je crois qu'il faut qu'il se mette en face de lui-même d'abord et qu'il se rende compte que c'est vraiment l'essentiel pour lui dans sa vie que d'essayer de faire quelque chose dans cette direction. S'il pense que c'est pour avoir du succès, gagner de l'argent, être connu, avoir son portrait sur les panneaux de publicité d'une ville, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Il faut vraiment qu'il sente que ce qu'il fera, on oubliera complètement qui il est. On le découvrira après coup, mais ce n'est pas le premier mouvement. C'est vraiment se sentir passionné du fin fond de son être. Et on peut s'en rendre compte si on se regarde dans la glace.
Vous-même, vous êtes très actif au sein de l'Académie des Beaux-Arts pour permettre un accès plus large à l'art. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre travail, de votre action et nous donner votre vision de ce qui peut être mieux fait ou tout simplement fait?
C'est difficile de toucher à une institution comme celle de l'Académie. Quand on est à l'intérieur, on a l'impression quelquefois qu'on est un peu dans un isolement de la vie qui est autour, qui est dans le monde autour. On est dans une institution. Déjà, l'institution, ça fait un peu peur, surtout à ceux qui sont à l'extérieur, qui ont un regard quelquefois assez critique, naturellement, à cause de, peut-être de, je ne sais pas très bien comment dire, si ça vient d'individus qui ont mal représenté l'Académie, quoique je trouve que les académiciens sont très honnêtes, très intègres dans leur recherche, dans leur aboutissement en étant à l'Académie. Il y a certainement quelques cas qui sont plus ou moins sincères, mais il y en a qui sont vraiment dans la plus grande partie sincères. Donc je crois que l'Académie devrait être un lieu où on reçoive tout ce qui se passe à l'extérieur et qui permette de trouver des voix, des paroles, des écrits qui servent à la génération futur. Donc je crois que l'académie, en effet, doit protéger le passé, le patrimoine et tout ce qu'on veut d'autre dans le passé, mais elle doit aussi se projeter dans l'avenir. Et je crois qu'elle devrait avoir plus de contact avec les jeunes générations. Elle essaye de se rapprocher de l'École des Beaux-Arts, mais l'École des Beaux-Arts, c'est aussi un tout petit peu comme l'Académie des Beaux-Arts, ça donne un sentiment un peu sclérosé, ce qui n'est pas le cas. Et je fais mon possible pour que nous ayons des communications et des rapports avec l'extérieur les plus intéressantes possibles. Je sais par exemple que des professeurs importants proche de la GACAN, qui est professeur en Angleterre, va nous faire une communication sur l'art musulman, enfin tout ce qui a pu se faire jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, je crois que c'est un homme remarquable que j'ai rencontré une fois, et ça, je crois que c'est important, parce qu'il faut qu'on soit bien au clair aussi de ce qui se passe dans les autres groupes humains dans le monde. Et là, je trouve que on ne doit pas du tout oublier cette énorme et riche partie de nous tous, des êtres humains que sont les musulmans. On aurait trop tendance parfois, tout en respectant, Dieu sait si j'ai des grands amis juifs, on doit vraiment espérer qu'il y ait un lien qui se crée et qui éloigne ces tensions. Sur le plan artistique, c'est très faisable. Hein. Et il faudrait que ça se propage plus loin. Non, mais je crois qu'on doit essayer d'apporter ça à l'Académie.
Voilà, donc pour faire suite à notre premier entretien, Monsieur Poncet, je vous reçois une seconde fois. Et donc, terminer et discuter de votre parcours, notamment de votre idée de l'art chez la nouvelle génération. Est-ce que vous êtes intéressé par les jeunes? Est-ce que vous avez déjà enseigné? Peut-être est-ce que vous avez pensé à l'après?
Naturellement, je suis plus qu'intéressé par les jeunes. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel de notre parcours d'ancien, si j'ose employer ce terme, pour pas dire d'autres mots qui me gêneraient personnellement. Je crois qu'il faut faire participer notre expérience et les choses surtout faire éviter des erreurs à la jeune génération qui peut se planter sur des points que l'on connaît bien nous-mêmes puisque nous les avons écartés de notre chemin pendant des années. Et ça, je pense qu'on peut contribuer à l'avenir à un moment donné, non seulement par nos œuvres si elles tiennent le coup dans le temps, mais par des choses que nous pouvons dire et écrire les jeunes peuvent prendre en main, ou prendre en tête ou en cœur. Alors, je vous dirais que lesquels, c'est là où on se lance dans un moment plus compliqué parce qu'il faut raisonner d'une façon intelligente. Donc, je pense que actuellement nous avons un moment où il y a un débordement qu'on pourrait dire type audimat, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut satisfaire le maximum de peuples, dans le mauvais sens du mot, avec l'intermédiaire de certains médias, qui sont aussi bien des médias d'ailleurs radiophoniques ou télévisuels, mais aussi par des positions que prennent certains critiques, certains conservateurs, pour un art qui est plutôt choquant que profond. C'est-à-dire un art qui a l'inconvénient, à mon avis, pour sa durée, d'être artificiellement saisi par une grande masse de public. Et ça, c'est un intérêt presque financier qui est entré dans les habitudes. D'ailleurs, je crois que c'est la même chose dans beaucoup de domaines qui nous entourent. Et je crois que maintenant, après cette crise qui a été et qui est encore grave, j'espère qu'il va y avoir une prise de conscience qu'il faut balayer dans nos ateliers, si j'ose dire. Moi, j'ai toujours aimé balayer mon atelier. C'est la première chose que je fais le matin. Et balayer un petit peu dans toutes ces malentendus, parce que pour finir, ce sont des malentendus qui empêchent une jeune génération d'exploser vers la joie, vers l'expression heureuse de la vie et pas seulement vers les drames et vers le mensonge, un peu le mensonge artificiel qui peut être la facilité de jouer sur certaines valeurs. Je ne veux pas parler de l'érotisme, je ne veux pas parler de ce type de choses qu'on manipule bien quand on est des grands personnages, mais que l'on peut manipuler d'une manière très en surface et bêtement. Mais ça, ce n'est qu'un domaine. Il y en a beaucoup d'autres qui, malheureusement, faussent, je crois, beaucoup l'art de notre époque. Et je regrette un peu souvent que cela finisse par camoufler des artistes très intéressants qui sont dans l'ombre, parce qu'ils ne sont peut-être pas arrivistes, qui mettent au premier plan la propre recherche qu'ils font, la propre émotion qu'ils vivent en manipulant les matières, les couleurs, les formes, le dessin et les idées aussi, et la spiritualité et toutes ces choses qui doivent être, apparentes par derrière l'apparence, si je peux dire, dans l'œuvre des artistes.
Est-ce que vous pensez que l'État fait beaucoup pour les jeunes, pour permettre de découvrir les nouveaux talents ?
Alors là, c'est difficile aussi de répondre, parce qu'il y a des efforts qui sont faits, par exemple, je pense à l'Académie des Beaux-Arts, à la Casa Velázquez, je pense maintenant capturée par l'État à la Villa Medici, où on donne des avantages après une sélection qui est souvent arbitraire, qui est faite pas assez, à mon avis, par des artistes. Je crois que l'État, entre autres, dans la commission de l'Académie des Beaux-Arts, je crois que ce sont des artistes qui travaillent le mieux. Mais dans les autres activités qui sont faites heureusement par l'État pour les jeunes, je crois que très souvent ce sont des fonctionnaires qui n'ont aucune connaissance de l'art, qui se piquent de connaître l'art, mais qui en réalité n'ont jamais pratiqué les mains dans le cambouis, comme on peut dire quand on est un passionné de garagisme, mais dans les mains, dans la terre, dans la glaise, dans la couleur. Ils n'ont jamais taché leurs pantalons avec un pot de rouge vif, et ça leur manque beaucoup. Alors là, les décisions peuvent être arbitraires, elles peuvent chercher des valeurs dans les jeunes talents qui apparaissent, qui sont malheureusement pour ces jeunes talents des erreurs où ils vont se planter. Je crois qu'il y a besoin d'une lucidité dans le regard que ces commissions apportent. Et ça, j'aimerais qu'elle soit un peu plus évidente.
Revenons à votre œuvre, Monsieur Poncet. Comment se déroule une œuvre lorsque vous créez ? Est-ce que vous créez tous les jours ? Vous disiez que le matin, vous balayez. Enfin, vous pourriez nous donner une idée de votre journal quotidien, votre journal de bord de sculpteur ?
Ben écoutez, vous savez, j'ai toujours trouvé fantastique ceux qui pouvaient. Je me rappelle que Gilles disait ça. Je vais dans mon atelier très tôt et je me donne 4 heures ou 5 heures régulièrement dans la journée, où je ne fais que travailler. Et moi, j'ai toujours ambitionné cette belle attitude, qui serait la meilleure d'ailleurs pour moi aussi. Mais il se trouve que c'est assez difficile de vivre ça. Alors on se trouve surtout avec, je trouve, la sculpture où passer d'un fondeur à un marbrier, d'un moulage à une terre qu'on est en train de travailler, d'un dessin qui sera une idée peut-être pour quelque chose de futur. Et passer seulement 4 heures, alors que parfois c'est beaucoup plus que ça que je passe, ou bien parfois alors je coupe un peu et je me... Par exemple, l'académie a été pour moi une source de relax, de anti-stress, je veux dire, de se stresser pour les autres, les autres artistes dans d'autres directions que la mienne. C'est rencontrer des gens du cinéma, des architectes, des peintres aussi, ce que le sculpteur fait assez peu. De notre génération, de ma génération, j'ai pas du tout l'impression que ça m'est sclérosé ou mis dans un espèce de frigidaire du passé. Bien au contraire, je trouve que nous pouvons ici faire vivre des idées, faire vivre des pensées qui servent vraiment, si on sait les communiquer à l'extérieur. Ça, c'est très important. Moi, je m'attache beaucoup cette année à ce que la communication, aussi bien des individualités qui sont dans nos académies, que des idées qui réunissent tous ces académiciens, toutes ces personnalités, soient diffusées à l'extérieur.
Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs comment se déroulent les séances de l'Académie des Beaux-Arts ? Parce que je crois qu'ils ont une idée assez vague de ce qui s'y passe au fond.
Alors écoutez, il y a je peux vous parler que des séances plénières, alors qu'il y a beaucoup de commissions qui, soi-disant, et parfois ne le font pas assez bien, mais parfois très bien, s'occupent d'un domaine particulier, par exemple le prix d'architecture ou les sélections pour des prix comme les prix Del Duca ou les prix Cardin, où là on se rencontre bien, Mais si vous voulez, ça n'entre pas tellement dans le cadre de la séance plénière, et ça c'est une chose que je regrette un peu, parce que nous avons une période très administrative un peu, c'est-à-dire qu'on rend compte du courrier qui est arrivé au secrétariat et chez le secrétaire perpétuel, on donne le procès-verbal de la séance de la semaine précédente, on parle de thèmes qui sont parfois pas réellement des causes qui peuvent intéresser les créateurs. C'est très intéressant de savoir si le budget de l'année suffira pour donner les prix que nous avons, mais c'est pas nécessaire, je trouve, dans les séances, alors que parler du choc qu'on a eu, par exemple, de Jeff Koons à Versailles, ou bien peut-être aussi, on peut aller jusqu'à Warhol, qui était au Grand Palais, qui était intéressant, mais aussi tout de suite en ce moment, à côté de nous, ce faux Warhol qui expose dans les bâtiments de la Monnaie. Ça, c'est beaucoup plus important et intéressant. Parler de ce qui se passe à l'étranger, dans les écoles des beaux-arts extérieurs, tout ça, c'est vraiment le centre d'intérêt, me semble-t-il, de nos séances. Et je pense qu'on va le développer de mieux en mieux. Cette année, nous avons décidé de prendre un thème qui est le Grand Paris, et j'espère qu'on va pouvoir le développer dans toutes les sections, pour parler du Grand Paris au point de vue architectural, mais pour parler aussi de ce qu'était le Grand Paris au point de vue des arts plastiques, ce qu'il doit redevenir, également sur le plan du cinéma, du théâtre, de l'ensemble des domaines de création en France.
Donc vous échangez beaucoup entre académiciens.
Ah oui. Oui, on essaye de...
Il y a du débat d'idées, de
goût. Oui,
il
y a du débat d'idées. Il y a, je pense, une bonne fraternité aussi qui fait que ceux qui ont tendance à trop parler, comme moi à l'instant, et s'arrêtent au bout de quelques minutes, et que ceux qui sont un peu trop renfermés sur eux-mêmes prennent plus de liberté pour parler.
Antoine Poncet, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi votre œuvre se différencie de vos inspirateurs ?
Ah, ça,
si on devait retenir quelque chose de votre œuvre.
Ah ben écoutez, ça, moi je pense que elle est entièrement imprégnée de tout ce qui s'est passé, mais depuis très très longtemps. C'est pas uniquement de la révolution abstraite, on pourrait dire. Moi, je suis imprégné aussi par les plus belles choses que j'ai vues dans la sculpture du monde. Naturellement, les Cyclades avec ses merveilleuses sculptures, l'Égypte et toutes les œuvres européennes magnifiques que je connais quand même assez bien, travaillant beaucoup la sculpture en Italie et pratiquant le marbre depuis très longtemps maintenant. Je crois que si on pouvait singulariser un peu, ou si je le disais moi, mais c'est pas tellement à l'artiste de parler de lui-même, mais je crois que j'ai envie de faire parvenir à ceux qui regardent mon travail une expression qui les rende heureux. Mais ça paraît un peu court comme expression. C'est-à-dire, je crois que le regard sur une œuvre, quand on sent une certaine plénitude, une certaine vie et joie, c'est mieux pour soi, pour le public, pour ceux qui regardent, que de voir l'expression de toutes les laideurs et tous les drames qui entourent malheureusement la vie de tous. Alors moi, je crois que c'est ça que j'essaye, en tout cas, mais presque d'une manière pas si réfléchie que ça. Plutôt, c'est mon tempérament qui me conduit à essayer de faire ça.
Aujourd'hui, combien d'années de travaux derrière vous ? Toute cette œuvre, c'est combien d'années
Écoutez, le calcul n'est pas difficile puisque j'ai commencé à 13 ans. Donc ça fait 67 ans, je crois, de sculpture.
Et vous sentez comment inspiré encore plus que jamais ?
Ah, il faudrait vivre 1000 ans, hein, parce que chaque chose qu'on a fait, on pourrait la reprendre, la revoir.
Tous les jours où vous vous levez, vous avez comme ça l'envie de créer.
J'ai envie, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça, puisqu'il y a comment dire, la disponibilité que je veux avoir aussi aux choses de la vie qui m'entoure, pas seulement de l'Académie et des artistes, mais là je sais que je vais partir en Chine pour une semaine qui sera absolument serrée puisque je veux rentrer assez vite pour me réoccuper de l'Académie ou de ma sculpture. Donc c'est pas tous les jours que je me mets à travailler. Puis d'ailleurs, vous savez, j'étais très préoccupé à un moment donné où je travaillais des jours et des jours à tailler des sculptures ou à grandir des plâtres et des choses comme ça par mes aînés qui faisaient des petits modèles qui étaient monumentaux.
Et j'avais été très épaté par Henry Moore, entre autres, où Giacometti, les petits personnages si magnifiques qu'il arrivait à faire et à emporter de Suisse à Paris dans des boîtes d'allumettes. Et je me disais, quand je vais être un peu plus âgé, il faudrait que j'arrive à faire des choses monumentales de 3 cm de haut. Et dans le fond, je travaille beaucoup dans ce sens-là maintenant. C'est-à-dire que je fais développer aussi mes premiers projets, puis je les corrige, je les modifie. Mais je me sens monumental dans la petite dimension, la petite échelle. C'est, je crois, l'expérience des grandes choses que j'ai fait aussi, qui fait que je vois les points sensibles déjà qu'il ne faut pas tromper dans l'équilibre, vous savez, le centre de gravité, le fil à plomb, le niveau d'eau, qui sont des outils de travail. Ils doivent se retrouver aussi dans l'humanité d'une recherche sculpturale.
Vous avez toujours vécu à la fois en Suisse et en France. Est-ce qu'on peut dire que votre pays de prédilection, c'est la France ou plutôt la Suisse ?
Oh, c'est tout à fait la France, puisque j'y suis né, je suis parisien, dans le fond. Mon père, qui était suisse par la naturalisation de son grand-père, était un faux Suisse, puisqu'il vivait presque toujours à Paris, en tout cas toutes les périodes d'hiver. Et moi, je n'ai eu que, ayant 12 ans, puisque je suis de 28, ayant 12 ans en 1940, et mon père étant suisse a pu être, pour lui c'était lui peintre de grand talent mais donc peu connu. Le fait d'être choisi pour un atelier à l'école des beaux-arts de Lausanne, c'était la possibilité de nous faire vivre, moi, ma mère et mon frère. Et donc je suis rentré en Suisse, donc j'ai passé, si vous voulez, de 12 ans à la fin de la guerre, ma vie en Suisse, avec le désir de repartir tout le temps à Paris, ce que j'ai fait dès 45. Donc je suis beaucoup attaché à la France, je suis français, je suis très français et très engagé dans toutes les choses ici.
Mais on dirait que cette double nationalité, vous avez la double nationalité, fait que vous avez une vision assez multiculturelle de l'art et de la vie, que vous voyagez. Là, vous avez dit que vous partez bientôt en Chine. Régulièrement, vous partez à l'étranger. Et dernièrement, donc, vous avez réalisé un livre qui rassemble vos œuvres. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce livre et de votre conception du monde et de l'art au sens même du monde?
Mais écoutez, oui, ce livre, c'est grâce d'ailleurs à l'Académie des Beaux-Arts, à ce cher ami que je regrette de ne pas voir ces jours-ci, Xu Teixung, qui a gardé, recréé plutôt après l'ouverture de la Chine des liens avec Pékin, qu'il a pu faire une collection de livres où j'ai mes amis Claude Abeille. Malheureusement, nous avons Granier qui n'est plus là. Et nous avons aussi le sculpteur Albert Ferraud qui n'est plus là. Mais nous avons les quatre avec moi réalisé ce livre à Pékin. Et je dois dire que si je repars en Chine, c'est beaucoup à cause de ce livre qui est en chinois et en français. Et ça nous permet d'avoir des contacts qui développent encore, si vous voulez, je crois, les liens entre la culture occidentale et française, particulièrement avec la Chine et les pays asiatiques. Et je crois que c'est important, quand on parle de mondialisation, cette mondialisation de l'art existe déjà depuis longtemps. J'ai fait un symposium en Japon en 62-63. Et à l'époque, quand j'étais arrivé à Tokyo, j'avais été stupéfait de voir les revues d'art japonaises qui étaient toutes imprégnées par la création qui venait de Paris. On voyait, feuilletant l'ensemble de ces revues, des peintures de Mathieu, mais pas tout à fait, juste à côté, des sculptures de César. Et tout était là, Harpe était là, toute la Giacometti n'était pas loin. Toute l'influence, on voyait, de l'école de Paris était arrivée en Japon et faisait des couches de créativité nouvelles de la culture japonaise. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut vraiment que Paris redevienne le centre aussi sur le plan de la création dans les arts plastiques.
Donc aller voir ailleurs, c'est fondamental pour
vous. C'est fondamental, c'est la mondialisation réelle qui existe dans l'art et dans dans tout ce qui est intellectuel et de la recherche, c'est certain, les sciences aussi.
Merci Antoine Poncet de nous avoir reçus dans votre atelier à Paris. Je rappelle que vous êtes membre de l'Académie des Beaux-Arts et que cet habit vert vous était consacré pour nous parler de votre parcours, de votre vie et de votre amitié et de vos maîtres comme Brancusi, Maillol, Giacometti, Bourdelle et bien d'autres. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.